Bien, nous allons pouvoir commencer cette deuxième journée du colloque de métaphysique de la composition. Je vous remercie d'être venu de si bon matin. Nous allons écouter donc deux talks avant, deux présentations avant la pause. Toute la matinée sera en français. Alors, notre premier intervenant est Olivier Massin. Qui est double docteur, docteur, comme on dit en allemand, en philosophie, ayant défendu une thèse sur l'objectivité de la perception tactile et une deuxième thèse sur la nature et la valeur du plaisir. Et il a enseigné 10 ans à l'université de Genève, puis il est maintenant professeur assistant à l'université de Zurich, et il prendra à partir d'octobre prochain un poste de chargé de recherche au CNRS. Et voilà, donc l'ensemble de ces... l'étendue de ces recherches est assez vaste, puisqu'il s'intéresse à des... questions essentiellement définitionnelles sur des questions aussi différentes que qu'est-ce qu'une force, un mélange, un échange économique, la propriété, qu'est-ce qu'une montagne, si vous voulez savoir ce que c'est qu'une montagne, le toucher, le désir, la valeur dérivée, une douleur ou une couleur, etc. Donc aujourd'hui, Olivier Massin va nous parler des tout cohésifs. Son polycopier est en anglais pour les personnes qui auraient plus de facilité à suivre en anglais, mais la présentation et j'imagine la discussion sera en français.
Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette très aimable présentation. Merci aussi pour l'organisation du colloque, à Jean-Baptiste et à Claudine également pour cette invitation qui m'honore. Alors je voudrais parler, donc je m'excuse pour l'exemplier qui est en anglais. J'avais fait ça au départ pour... Claudio, Calosi, Achille, dont je savais qu'ils auraient plus de facilité avec l'anglais, qui malheureusement ne sont pas là. Donc j'espère qu'il y a quelques locuteurs natifs anglais dans la salle pour que ce ne soit pas complètement, complètement inutile. J'ai juste projeté l'exemplier à l'écran que je vais dérouler au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que vous ne voyez que la moitié. La question qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la question de savoir comment, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que plusieurs choses tiennent ensemble. Et c'est une question qui a évidemment une importance assez immédiate pour la question de la composition. Il y a plusieurs enjeux de cette question, mais le premier enjeu pour la question de la composition, c'est certainement celui-ci. Vous savez qu'il y a il y a un peu trois grandes options qu'on peut adopter au sujet de la question quand est-ce que différentes choses en composent une autre. On a des gens qui sont ce qu'on appelle des nihilistes mérologiques, qui pensent que c'est jamais le cas, que les seules choses qu'on a sont des choses simples, qui ne sont pas composées. On a, à l'autre opposé du spectre, des gens qui pensent que c'est toujours le cas, on peut prendre n'importe quelle chose, les mettre ensemble, et ça nous fait un tout qui peut être complètement disjoint, épars ou arbitraire. Et puis, entre ces deux positions extrêmes, on a un certain nombre de propositions qui tentent de dire, non, il y a seulement certains tout qui sont des bons tout. Donc, on ne peut pas prendre n'importe quelle chose pour faire des tout. Il faut les arranger d'une certaine façon. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer cette composition qu'on appelle restreinte, mais une d'elles, une proposition qui revient souvent et qui est assez intuitive, c'est de dire ben, plusieurs choses en composent une autre simplement quand elles forment un tout cohésif, quand elles tiennent ensemble. D'accord ? Alors, moi, ce n'est pas cette question-là qui m'intéresse directement ici, c'est plutôt une question préliminaire. Si on veut pouvoir évaluer cette question-là, il faut comprendre ce que ça veut dire que pour différentes choses que de tenir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que les choses sont cohésives? Et c'est cette question qui m'intéresse aujourd'hui. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que la cohésion? Et c'est la question que je vais tenter d'éclaircir ici. Ce n'est pas une question qui est très souvent traitée. La plupart du temps, on a tendance à présupposer, aussi bien les métaphysiciens qu'en physique ou en mécanique, que c'est à peu près clair ce que c'est que la cohésion. Et on va vers d'autres questions, la question de la composition restreinte, ou d'autres questions qui ont trait à qu'est-ce que c'est qui fonde la cohésion physiquement? Est-ce que c'est l'éther? Est-ce que c'est des forces intermoléculaires, etc.? La première chose que je veux défendre plus généralement, la première thèse générale que je voudrais défendre ici, c'est que c'est une question légitime de se mettre au clair sur qu'est-ce que c'est que la cohésion. Ça ne va pas complètement de soi, et il y a un travail d'analyse conceptuelle à faire ici. Donc ça, c'est un peu la thèse générale. Et la seconde thèse, un peu plus spécifique, que je voudrais défendre, c'est qu'il me semble qu'il y a deux principales conceptions de la cohésion. Une conception de cohésion que j'ai appelée ici modale, qui en gros consiste à dire un tout est cohésif quand il est impossible que ses parties puissent bouger les unes relativement aux autres. Et il y a une conception de la cohésion qui n'est pas modale, mais qui fait appel au concept de résistance, qui dit qu'un tout est cohésif quand il résiste au mouvement relatif de ses parties. Et je voudrais défendre que cette seconde notion de cohésion, que j'appelle une notion dynamique de cohésion, est la bonne façon d'appréhender le concept de cohésion. Donc c'est un... voilà pour le programme. C'est un travail d'analyse conceptuelle. Enfin, je suis un peu à la vieille école à ce sujet. Je pense que c'est fécond de faire de l'analyse conceptuelle en philosophie. Et je voudrais, pour commencer, essayer de désamorcer deux objections. Je pense qu'ils peuvent venir assez naturellement quand on parle de faire de l'analyse conceptuelle d'un concept qui est aussi manifestement mécanique ou physique. Alors, je pense que la première forme d'objection ici, ça consiste à dire... C'est très intéressant, la cohésion, mais si on veut vraiment savoir ce qu'est la cohésion, c'est pas aux philosophes qu'il faut demander, c'est aux physiciens, et en particulier, il faut étudier ça de manière empirique. Alors, je ne veux pas passer trop de temps sur ces questions méthodologiques, mais je voudrais juste essayer de vous convaincre qu'il y a au moins un petit espace pour une analyse conceptuelle, a priori, au sujet de cette notion de cohésion. Alors, ma réponse générale à ce souci légitime, c'est de dire il faut distinguer clairement deux questions. Une question qui a intéressé une grande partie des physiciens, des philosophes de la nature, Galilée, Locke, Newton, Laplace et bien d'autres, qui consiste à dire quelles sont les causes, les fondements physiques de la cohésion. Est-ce que c'est des forces intermoléculaires, comme ce qui aujourd'hui est une des thèses les plus acceptées? Est-ce que c'est l'éther? Est-ce que c'est la pression de l'air, etc. Donc on cherche à expliquer pourquoi est-ce que les choses cohèrent. Mais c'est une question distincte de savoir qu'est-ce que c'est pour les choses que cohérer. Il faut s'entendre au départ, si on veut même pouvoir étudier les fondements physiques de la cohésion, il faut au moins s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par la cohésion, et c'est ce que j'appelle ici la question de la nature de la cohésion. Alors ça, c'est la façon dont je vois les choses de manière générale. Il y a trois réponses, je pense, qu'on pourrait tenter de faire à l'objection générale. La première consiste à dire... Oui, on accepte tout à fait la distinction entre qu'est-ce qui fonde la cohésion et qu'est-ce que c'est que la cohésion. Mais même pour répondre à la question qu'est-ce que c'est que la cohésion, il faut ouvrir des manuels de mécanique et il ne faut pas faire de la métaphysique depuis son fauteuil. Vous ne pouvez pas nous sortir des thèses de votre chapeau. On dit métaphysique depuis son fauteuil, mais je suis un élève de Jean-Maurice Monnoyer, donc j'aimerais mieux qu'on dise la métaphysique de chapeau. Donc on sort nos thèses de notre chapeau, et je pense que c'est quelque chose de tout à fait légitime et fécond en métaphysique. Donc l'objection, c'est de dire, pour comprendre la nature de la cohésion, il faut aller lire des manuels de physique, et il faut faire une investigation a posteriori. Il faut faire de la métaphysique a posteriori, comme le souligne un certain nombre philosophe dont Peter Simons récemment, je ne vais pas dire cette citation, mais qui dit « Si vous voulez comprendre, répondre à la question de la composition restreinte, il ne faut pas le faire depuis votre fauteuil. Il ne faut pas regarder dans votre chapeau, il faut aller regarder ce que nous disent la physiologie, l'anatomie, les sciences de l'ingénieur, etc. » Ma réponse à ça, c'est que c'est tout à fait vrai qu'il ne faut pas rester dans son fauteuil de philosophe. Mais c'est faux qu'il faille quitter tout fauteuil. Et je pense qu'il y a une erreur qu'on tente à commettre qui consiste à dire si on ne s'intéresse pas à la philosophie, c'est qu'on s'intéresse forcément à des questions empiriques. Or, quand on regarde ce que disent les sciences de l'ingénieur, en particulier, je vais m'intéresser ici un peu plus spécifiquement à la physique des milieux continus, qui est la plus intéressante pour cette question-là, ce sont des manuels qui sont en fait pleins de thèses, a priori, de thèses empiriques. Ce n'est pas parce qu'on parle de sciences empiriques que ces sciences n'ont pas une grande partie qui est complètement a priori, où on cherche à définir. Si on regarde dans un manuel de physique des milieux continus une définition de l'élasticité, ce n'est pas du tout une définition qui a une quelconque base empirique. On n'est pas en train de faire une quelconque mesure. En réalité, une grande partie de ces disciplines ont été développées depuis un fauteuil, qui n'est pas un fauteuil de philosophe, mais qui est un fauteuil d'ingénieur, parfois de mathématicien. Donc je pense que... quand on veut être empiriquement informé, quand on veut être scientifiquement informé, ça ne veut pas forcément dire qu'on est complètement en train de quitter l'idée qu'il y a un certain nombre de clarifications a priori à faire au sujet de certains concepts. Simplement, il faut accepter que ces clarifications ne sont pas simplement faites par des philosophes, mais également par les scientifiques eux-mêmes. Alors, un second doute qu'on pourrait émettre à l'encontre de cette approche, c'est de dire, en fait, vous ne pouvez même pas distinguer la question de la nature de la cohésion, de la question des causes de la cohésion. La question, qu'est-ce que c'est pour quelque chose pour plusieurs choses de tenir ensemble, et la question, qu'est-ce qui fait que les choses tiennent ensemble. Tout ça, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la cohésion? C'est précisément ce qui fait que les choses tiennent ensemble. Alors là, j'ai un certain nombre d'éléments que je voudrais avancer en réponse, plutôt en termes pour mettre mes cartes sur la table. De manière générale, il me semble que la principale motivation pour distinguer ces questions, elle a trait au paradoxe de l'enquête, qu'on appelle le paradoxe de Ménon, qui consiste à dire, si on veut enquêter sur les causes de la cohésion, sur les bases ou les réaliseurs de la cohésion, il faut s'entendre sur ce que c'est que la cohésion, il faut savoir ce qu'on cherche, il faut avoir une caractérisation préalable de l'objet de notre enquête. Si on n'a pas ça, on ne sait même pas où chercher. Ou si on trouve quelque chose, on aura toujours beau jeu de dire que c'était précisément ce qu'on était en train de chercher. Donc si on veut pouvoir évaluer n'importe quelle thèse sur voilà ce qu'est une cause ou une base de la cohésion, il faut qu'on soit au clair sur ce que c'est que la cohésion. Et j'ai deux raisons un peu supplémentaires de prendre au sérieux cette distinction entre l'étude de la nature de la cohésion et l'étude des causes de la cohésion. La première, elle a trait à une chose dont j'aurais voulu parler plus aujourd'hui, mais malheureusement, dont je n'aurais pas le temps de parler, qui est un projet de recherche plus général que j'ai, qui est de dire ces concepts dynamiques, je vais expliquer dans un moment ce que j'entends par concept dynamique, tels que la cohésion, la solidité, la rigidité, l'élasticité, ils ont une caractéristique assez étonnante qu'on les emploie de manière très spontanée en dehors du champ de la mécanique. Les économistes parlent d'élasticité des prix, les philosophes... rigidité de la référence, robustesse des arguments, enfin, il y a quelque chose de tout à fait spontané à employer ces concepts en dehors de leurs champs originaux. Alors, on peut penser que c'est purement métaphorique. L'hypothèse qui m'intéresse, qui me semble a priori plausible, c'est qu'il y a plus que ça, c'est plus qu'un emploi purement métaphorique, mais que ce sont des concepts qui ont un nœud ou un noyau formel. Un peu de la même façon que le concept de parti, et pas, même si au départ on étudie le concept de parti en partant des questions de parti spatial, on peut ensuite parler de parti de proposition, de parti de différentes entités abstraites, parti temporel. Je suis tenté par l'idée qu'on peut faire un peu le même mouvement formel au sujet des concepts dynamiques, comme la solidité, comme les forces, la résistance, dont je parlerai un peu plus, qui sont des concepts qui s'appliquent au départ à la matière, qui ont été développés pour comprendre la matière, mais qu'on peut appliquer à d'autres domaines. Et au sujet de la cohésion, il y a un précédent pour ça, évidemment, qui est lié à l'exposé de Sophie et Frédéric hier, c'est la notion de cohésion sociale, qui a fait l'objet d'un grand nombre de recherches de la part des sociologues. Donc, quand on dit qu'un groupe est cohérent ou cohésif, il y a sans doute un nœud commun, un noyau commun au concept de cohésion qu'on applique également à la cohésion d'un objet matériel. Donc là encore, si on veut pouvoir extraire ce noyau formel du concept de cohésion, on a intérêt à le couper de la question des bases de la cohésion. Parce qu'évidemment, si ce qui fonde la cohésion physique, ce sont des forces intermoléculaires, ce n'est pas les forces intermoléculaires qui vont fonder les cohésions sociales, vraisemblablement. Donc ça, c'est une raison supplémentaire de distinguer ces deux questions. Je vais laisser de côté ma troisième raison pour avancer un petit peu. Alors... ainsi que la troisième objection, parce que j'ai peur de passer trop de temps là-dessus, mais de manière générale, donc c'est ça l'idée. On peut, depuis notre fauteuil, pas simplement de philosophe, mais également de sciences de la nature, on peut de manière a priori essayer d'en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est que, pour différentes choses, de tenir ensemble. Alors si vous avez un doute là-dessus, je vais juste vous donner trois exemples profondément ennuyeux, mais qui sont moins des thèses a priori qu'au sujet de la cohésion, pour vous convaincre qu'on peut en trouver. La première, c'est « la cohésion n'est pas un canard ». On n'a pas besoin de faire une enquête empirique poussée pour accepter cette thèse comme vraie. On n'a même pas besoin d'enquête empirique du tout. C'est quelque chose qui semble être une vérité conceptuelle, profondément ennuyeuse, pas très intéressante, mais au moins il y en a une. Il me semble qu'il y en a quelques autres qu'on peut déjà avancer, et je vous en donnerai, j'espère, d'un peu plus substantielle et intéressante. La cohésion est une propriété. La cohésion est une propriété naturelle, dans le sens d'une propriété normative, ce n'est pas une valeur. Alors oui, il y a sans doute des emplois un peu spécifiques de cohésion où on peut utiliser ça, comme la cohésion d'un groupe, comme quelque chose de bien, mais quand on parle de la cohésion d'un objet solide, on n'est pas en train de lui attribuer une valeur ou de l'évaluer d'une quelconque façon. Donc tout ça sont des thèses purement a priori au sujet de la cohésion, et je pense que si on creuse un peu, on peut arriver à des thèses plus intéressantes qui nous permettent de clarifier le concept. Donc ça, c'est la première objection au projet. Il faut faire de la chose, la cohésion, c'est quelque chose qu'on ne peut éclairer que de manière empirique, pas complètement. Ici, on veut comprendre la nature de la cohésion, par distinction, la question des causes ou des fondements de la cohésion, il y a un travail a priori à faire. La seconde objection, qui est une objection qui vient d'une direction un peu différente, mais qui m'a paru être un peu récurrente, j'arrive pas à dérouler complètement, excusez-moi, elle consiste à dire, oui, très bien, on peut dire des choses de manière a priori de la cohésion, mais ça va être profondément ennuyeux. Parce que tout ce qu'on peut dire de manière a priori de la cohésion, c'est des choses qui tiennent bien ensemble. C'est parfaitement clair ce que c'est pour des choses d'être cohérentes. Et la seule question intéressante, c'est qu'est-ce qui explique que les choses soient cohérentes ou cohésives. Et c'était en partie la thèse de Locke, en partie seulement, je vous la lis ici. The matter of fact, à savoir that parts of bodies stick firmly together, is clear, I confess. But when we would a little nearer look into it and consider how it is done, there I think we are at a loss. And can as little understand how the parts of body cohere as how we ourselves perceive or move. I would have anyone intelligibly explain to me how the parts of gold or brass come in a few moments to be so united and adhere so strongly one to another that the utmost force of men's arms cannot separate them. Donc la thèse de Locke, et c'est une thèse qui développe après une discussion assez détaillée, c'est de dire, on voit très bien ce que c'est que la cohésion, pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Ce qui est un vrai mystère, et là-dessus Locke pense même qu'on n'a aucune bonne réponse, c'est pourquoi les choses, qu'est-ce qui explique la cohésion. Il envisage différentes hypothèses, la pression de l'air, l'éther, et il arrive à la conclusion qu'on ne peut pas comprendre ça. Donc on ne peut pas comprendre les causes de la cohésion, mais il pense que c'est absolument clair ce qu'on entend par la cohésion. Alors en fait, Locke, comme je le dirai un peu plus loin, est plus intéressant que ça. Enfin, il propose tout un tas de thèses substantielles tout à fait plausible au sujet de la nature de la cohésion. Mais juste pour vous convaincre que les choses ne sont pas si évidentes d'emblée, voici une liste de questions au sujet de la cohésion qui me semblent être des questions légitimes et qui n'appellent pas par elles-mêmes de réponses tout à fait immédiates, sans réflexion. Alors, est-ce que la cohésion est distincte de la dureté, de la solidité, de l'impénétrabilité, de la robustesse, de la rigidité, de la raideur, de l'indéformabilité, de la résistance, de la tension, de l'élasticité à la déformation? Et si la cohésion est distincte de ces phénomènes, quelle est sa relation à ces phénomènes-là? Est-ce que c'est un genre de ces phénomènes, une espèce de ces phénomènes? Est-ce qu'elle implique certains de ces phénomènes ou pas? Est-ce que les liquides sont cohésifs? Est-ce que les gaz sont cohésifs? Est-ce qu'il y a différents degrés de cohésion? Est-ce qu'on peut être cohérent ou cohésif dans différentes directions? Est-ce que la cohésion est une propriété dissective? C'est-à-dire, est-ce que si un tout est cohésif, est-ce que chacune de ses parties est également cohésive? Est-ce que la cohésion est une propriété monadique? Est-ce que c'est une relation, une propriété relationnelle, un épisode, une disposition? Est-ce que c'est une propriété modale, l'impossibilité d'être déformé? Est-ce que c'est une propriété dispositionnelle, la disposition à résister à la déformation? Est-ce que des points peuvent être cohésifs? Est-ce que des simples étendues peuvent être cohésifs, etc.? Ces questions-là, elles semblent me paraissent être des questions importantes, légitimes, et je ne pense pas qu'on puisse y répondre de manière tout à fait évidente sans avoir été un peu plus avant dans l'analyse du concept de cohésion, dans laquelle je voudrais maintenant rentrer. Alors, pour commencer, je voudrais faire quelques remarques sur purement grammaticales sur les termes qu'on utilise quand on parle de cohésion. Il y a deux expressions principales, deux prédicats principaux qu'on utilise. Le premier, c'est celui d'être cohésif, et le second, c'est celui de cohérer avec, qui est peut-être un peu moins commun en français qu'en anglais, mais c'est une expression qu'on comprend au moins. Alors, prédicat d'être cohésif, c'est un prédicat qu'on applique à deux types de choses. On l'applique d'une part au tout qui tiennent bien ensemble. On dit qu'un tout est cohésif, c'est un tout dont les parties tiennent bien ensemble. Et on applique également le prédicat d'être cohésif à ce qui fait que le tout tienne bien ensemble. Donc la colle, dont parlait hier Claudine Tiercelin, la glu, le ciment, sont des entités qu'on qualifie parfois de cohésives, parce que c'est celles qui expliquent que les choses tiennent ensemble. De la même façon, on parle de force cohésive pour expliquer la cohésion. Alors moi, je vais m'intéresser simplement au prédicat du premier type. Quand je parlerai de cohésivité, quand j'utiliserai l'adjectif cohésif ici, ce sera uniquement pour désigner les tout qui tiennent bien ensemble, pour la raison, comme je vous l'ai dit maintenant, que la question de la cause de la cohésion n'est pas la question qui m'intéresse ici. Enfin, c'est une question intéressante, mais qui pour le coup demande une enquête empirique. Pardon. Le deuxième prédicat qu'on a, c'est un prédicat relationnel, cohérer avec. Et je voudrais dire juste quelques mots sur de ce prédicat et de la relation entre ces deux prédicats. J'admettrai deux thèses ici. La première, c'est qu'un tout est cohésif si et seulement si ces parties propres cohèrent les unes avec les autres. D'accord ? Donc, qu'est-ce que c'est que cohérer avec ? On a différentes choses qui cohèrent les unes avec les autres. Si elles cohèrent les unes avec les autres et qu'elles forment un tout, alors ce tout est cohésif. Et la deuxième thèse que j'admettrais, c'est qu'un tout est cohésif parce que ses parties cohèrent les unes avec les autres. Donc l'idée, c'est que ce prédicat de cohérer avec, c'est vraiment ce qui... c'est le prédicat fondamental, c'est ce qui explique la cohésivité des touts, c'est que les parties cohèrent les unes avec les autres. Alors, une question qui surgit immédiatement, c'est est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur les propriétés logiques de ce prédicat ? Il me semble, mais là-dessus je m'avance un peu prudemment, parce que tout va dépendre un peu de l'analyse qu'on va donner justement de la cohésion, qu'on peut accepter que c'est un prédicat réflexif, donc que toute entité cohère avec elle-même, qu'il est symétrique, ça semble assez clair, c'est-à-dire que si cet objet cohère avec cet objet, alors cet objet cohère avec cet objet, et que sous certaines conditions, le prédicat de cohérer avec est transitif, c'est-à-dire si cet objet cohère avec cet objet, et cet objet cohère avec cet objet, alors cet objet cohère avec cet objet. Sous certaines conditions, pourquoi ? Parce que comme on va le voir, il y a différents degrés de cohésion, sans doute, différentes directions de cohésion, et si on fixe un certain degré, un certain type et une certaine direction de cohésion, alors on peut avoir vraisemblablement une transitivité de la cohésion, mais pas sinon. Je reviendrai sur ces notions de différents degrés de cohésion dans un instant. Alors, ça c'est quelques mots sur la logique de la cohésion. Maintenant j'en viens au cœur de les deux principales thèses, il me semble, et si vous avez d'autres suggestions en tête, je suis très intéressé, sur... Décidément, je n'arrive pas à vous... Ah, tiens, je dois pouvoir résoudre ça comme ça. Non. Faut que je garde le doigt dessus, excusez-moi. On est juste bon. Alors, première proposition qu'on trouve souvent admise en passant dans la littérature, c'est que pour deux objets de cohérer les uns avec les autres, c'est le fait que ça consiste dans le fait qu'on ne peut pas bouger un de ces deux objets, relativement à l'autre. Voici ce que dit Van Inwagen, par exemple. « It is of course possible to join objects so that they can be pulled apart. We might say that in such cases, one causes objects to cohere. » Donc l'idée générale, c'est qu'on va définir la cohésion en termes de impossibilité d'une forme de mouvement relatif des parties. Alors, là on peut introduire un certain nombre de distinctions. J'appellerai ici cohésion générique. Donc l'idée suivante, un tout est cohésif si et seulement si ces parties ne peuvent pas bouger relativement l'une à l'autre, au moins dans une certaine direction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous avez deux parties, vous avez différentes façons de les faire bouger l'une par rapport à l'autre, vous pouvez les éloigner, les séparer, vous pouvez les rapprocher, et vous pouvez aussi les faire glisser l'une contre l'autre. D'accord ? Ce qui va correspondre à trois formes de cohésion principale sur lesquelles je reviendrai. Mais donc, ça c'est l'idée générale de cohésion. On a une idée très forte, la cohésion générique, on a une idée très forte de cohésion qui dit qu'un tout est cohésif, si et seulement si ces parties ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres d'une quelconque façon, donc vous pouvez ni les rapprocher, ni les éloigner, ni les faire glisser les unes contre les autres. On a une notion plus faible de cohésion qui dit qu'un tout est cohésif si et seulement si ces parties ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres dans au moins une direction, et ça nous donne différentes... il y a différentes versions de cohésion faible, pour en mentionner quelques-unes ici. On peut avoir une notion de cohésion modale, donc d'indéformabilité, qui consiste à dire qu'un tout est cohésif si et seulement s'il ne peut pas être déformé. Donc on interdit simplement les mouvements relatifs des parties qui vont conduire à un changement de forme. Et ça, c'est tolérant à d'autres mouvements de parties qui n'affectent pas la forme, typiquement la compression d'un objet, c'est pas quelque chose qui affecte sa forme. Et vous avez aussi des changements, des mouvements entre les parties qui n'affectent pas la forme d'un objet. Si vous imaginez des cercles concentriques ou des poupées russes qui tournent les unes dans les autres, vous avez des mouvements des parties relativement les unes aux autres, mais le tout lui-même ne change pas de forme. Ce sont des mouvements relatifs des parties qui n'affectent pas la forme de l'objet. Il y a une notion plus commune, et c'est peut-être là le concept restreint de cohésion qui est le plus tentant intuitivement, qui a trait à l'inséparabilité. Alors, laissez-moi en fait sauter dire... Non, je vais quand même dire ça. L'inséparabilité, c'est l'idée qu'un objet est cohérent ou cohésif si et seulement si ses parties ne peuvent pas être éloignées les unes des autres. À ce moment-là, on accepte que ces parties puissent être rapprochées ou glissées l'une contre l'autre. Et je pense que la notion de cohésion peut-être la plus intuitive, c'est celle sur laquelle s'appuie notamment Spelke, la psychologue qui s'intéresse à la représentation des objets chez les enfants, notamment chez les nourrissons, qui a une notion de cohésion qui est à la fois modale et qui introduit un concept topologique de connexion, de past connectedness. Son idée, c'est qu'un tout est cohésif si et seulement si il ne peut pas perdre. Alors, je ne sais pas la traduction française de past connectedness, sa connexion ou sa. Comment ? Connexion, tu dirais aussi ? Son chemin de connectivité, sa connectivité, son chemin. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un terme technique qui désigne quelque chose de relativement simple. C'est que si vous avez un objet, vous pouvez, de n'importe quel point de l'objet, voyager jusqu'à n'importe quel autre point de l'objet sans quitter l'objet en question. Donc, on introduit deux contraintes pour qu'un tout soit cohésif. Il faut que l'objet soit connecté, dans ce sens-là, qu'on puisse voyager de n'importe quel point à n'importe quel autre sans quitter l'objet. Et on soutient que cet objet doit garder sa cohésion. Donc, ça veut dire, si vous avez une espèce de blob de gelée anglaise qui voyage dans l'espace en se déformant sans jamais se séparer en différentes parties, il est cohésif dans ce sens-là. Donc ça, c'est encore une notion modale de connexion un peu plus raffinée qui correspond peut-être à un concept de cohésion qu'on utilise assez volontiers. Alors, ça, c'est un certain nombre de façons de définir ces différents concepts de cohésion de façon modale, et la chose que je veux soutenir... Jean-Baptiste, je devrais m'arrêter. À quelle heure ? J'ai pas regardé à quelle heure on a commencé.
Faire 41, 46.
D'accord, merci beaucoup. Alors, je dois accélérer un petit peu. La chose que je... J'ai deux soucis au sujet de toutes ces analyses modales du concept de cohésion. Je ne pense pas qu'on doive choisir entre les unes et les autres. On peut accepter qu'il y a différentes forces ou différents degrés de concept de cohésion ici. Mais il y a deux objections que je voudrais avancer contre cette approche modale des concepts de cohésion. La première approche, c'est que il n'est pas vrai que si les parties d'un objet ne peuvent pas bouger relativement les unes aux autres, alors cet objet est forcément cohésif. Prenez un objet qui est manifestement pas un objet cohésif, comme vous ouvrez une boîte d'allumettes, vous la renversez sur la table, donc là, toutes ces allumettes ensemble forment un tout, admettons, mais un tout qui n'est pas cohésif. Maintenant, il y a un certain nombre de façons pour cet objet de ne pas pouvoir d'être tel qu'il est impossible que ses parties bougent ensemble. Supposez qu'il y ait un dieu qui soit extrêmement bénévolent à l'égard de ce paquet de cigarettes, parce qu'il est dieu, donc il est un être nécessaire, il est tout puissant, et à chaque fois qu'une quelconque tentative est faite de déplacer une allumette relativement aux autres, soit il repousse la personne qui s'approche des allumettes, soit il la tue, soit il désintègre, enfin il peut faire tout ce qu'il veut, mais en tout cas. Donc on a une nécessité métaphysique la plus forte qui soit, il est impossible que ces allumettes soient déplacées les unes par rapport aux autres, et intuitivement c'est pas du tout suffisant pour dire que ce paquet d'allumettes est un tout cohésif. Alors il y a différents mouvements qu'on peut faire pour contrer ça. Je pense qu'un mouvement assez dans l'esprit de Kit Fine, ce serait de dire: oui, en fait, il faut rajouter quelque chose au sujet de la source de cette impossibilité. La source de cette impossibilité doit être localisée dans les allumettes elles-mêmes. D'accord ? Si les allumettes empêchent le mouvement relatif de leur partie, si le mouvement relatif des allumettes est impossible, non pas en vertu d'un dieu externe aux allumettes, mais en vertu des allumettes elles-mêmes, alors on a vraiment quelque chose de cohérent. Alors, je ne veux pas pousser trop loin les expériences de pensée, mais imaginez que Dieu soit un paquet d'allumettes et qu'il se protège lui-même. On a à peu près le même problème ici. On a juste... Donc, Dieu est un être qui n'est pas cohésif, mais il empêche n'importe quelle chose qui essaye de bouger ses parties de les bouger. Et intuitivement, il me semble, on n'a pas envie de dire que Dieu est cohésif. Il est tout un tas de choses, mais cohésif, non. Donc, l'idée générale, qui est un peu une idée, je pense, familière, en tout cas depuis les travaux de Fine, c'est que cette notion de simple impossibilité, elle coupe un peu trop large. Il y a beaucoup de façons de ne pas pouvoir être sujet à des mouvements relatifs de ces parties, et la cohésion n'est que l'une d'elles. Et on veut mettre le doigt sur comment exactement les parties ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres, et l'approche modale échoue à faire cela. La seconde objection à cette approche modale de la cohésion, c'est l'objection qui va dans l'autre sens, qui consiste à dire qu'il n'est pas le cas que être cohésif implique que ces parties ne puissent pas bouger, avoir des parties qui ne peuvent pas bouger les unes par rapport aux autres. Et là, l'idée, c'est une idée assez simple, c'est de dire, mais en fait, il semble y avoir différents degrés de cohésion. Si vous pensez que la cohésion, c'est l'impossibilité pour les parties de bouger les unes par rapport aux autres, alors vous capturez simplement le degré le plus fort de cohésion, les choses les plus dures, les plus solides, mais vous avez des choses qui sont cohésives, une très discutée, c'est les questions de la surface de tension et de la cohésion de l'eau. Donc l'eau ici est cohésive, c'est grâce à ça que les insectes peuvent marcher dessus, c'est grâce à ça qu'on peut faire tenir des gouttes d'eau sur une pièce de monnaie. Elle est clairement moins cohésive que ne l'est un objet solide comme cette table. Comment est-ce qu'on va rendre compte de ces degrés de cohésion si on a juste cet opérateur modal d'impossibilité? Alors il y a différentes tentatives qu'on peut faire. Il me semble que la plus intuitive et peut-être la seule qui conduise à des résultats prometteurs, c'est celle qui consiste à dire que X est cohésif si et seulement si ces parties ne peuvent pas bouger les unes, ne peuvent pas bouger facilement les unes par rapport aux autres. D'introduire un adverbe sur est-ce qu'on peut faire facilement ou non, ou difficilement bouger les parties les unes par rapport aux autres. Alors dans un sens, je suis assez d'accord avec cette approche, mais il y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que ce qu'on essaye de comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour différentes choses que de tenir fermement ensemble, que de tenir bien ensemble. Et en un sens, cet adjectif facilement, bien, fermement, c'est précisément ce qu'on veut comprendre. Donc on est en train de mettre dans l'analyse de la cohésion une partie de ce qu'on cherche à éclaircir. Et la deuxième chose, c'est que, comme je vais le faire valoir maintenant, la seule bonne façon de comprendre ce genre d'adverbe, facilement, difficilement, dans ce contexte, c'est de faire appel à des concepts dynamiques de force et de résistance. Et si on fait ça, on arrive à la thèse qui me semble être l'analyse de la résistance qui me semble être la plus plausible, à laquelle je viens maintenant. Alors, la proposition générale d'analyse de la cohésion, pardon, à laquelle je viens maintenant. La proposition générale, c'est la suivante. Je ne vais pas revenir sur les différents types de cohésion, selon la façon dont on distingue les mouvements. C'est l'idée qu'un tout est cohésif si et seulement si le tout résiste au mouvement relatif de ses parties. Résiste au mouvement relatif de ses parties, d'accord ? On a remplacé le concept modal par cette notion de résistance, ici. Alors, quelle est la motivation pour faire ça par rapport aux deux objections précédentes à l'approche modale, pardon. La première motivation, c'est que la résistance, ça semble capturer exactement la façon dont on doit rendre la cohésion impossible, dont on doit rendre le mouvement des parties impossible pour être véritablement cohérent. Alors, le dieu paquet d'allumettes auquel je faisais allusion, il n'est pas vraiment le cas qui résiste au mouvement relatif de ses parties. C'est plutôt quelqu'un qui refuse le combat, pour ainsi dire. Donc, si je tiens à faire un bras de fer et que je demande à Pascal, fais un bras de fer avec moi, fais un bras de fer avec moi, et Pascal me dit toujours non, non, non. C'est pas vraiment comme si Pascal me résistait. Il refuse le combat, lâchement. Par contre, si on fait vraiment un bras de fer, là, on a vraiment une résistance entre l'effort que j'exerce sur le bras de Pascal et la réaction de Pascal. Donc, l'idée, c'est la résistance, c'est vraiment ce qui capture le nœud, le noyau de la cohésion. C'est ce qui manifeste le fait qu'une chose est cohésive, c'est qu'elle résiste à la déformation de ses parties. Et relativement à la question de l'absence de degré de cohésion, à partir du moment où on admet que la notion de résistance peut venir par degré, qu'on peut résister plus ou moins fort à une contrainte externe, on a différents degrés de cohésion. Alors évidemment, tout le problème, c'est qu'on introduit, on sort du chapeau, cette notion de résistance, et que toute la question, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par résistance maintenant. C'est une notion qu'on retrouve de manière très générale en physique, en mécanique, en biologie, dans beaucoup de domaines, qui, à ma connaissance, très peu analysée. Je ne connais qu'un article qui cherche à essayer de rendre clair cette notion de résistance, et je vais vous faire une proposition dans un instant. Juste d'abord pour vous dire que cette notion de cohésion comme résistance au mouvement relatif de ses parties, c'est une notion qu'on retrouve chez Galilée. La première des deux sciences que Galilée introduit, c'est la science qu'il appelle, pardon pour l'anglais, « the resistance which solid bodies offers to fractures ». Donc ça, c'est la première des deux sciences. Une idée qu'on retrouve chez Locke et qu'on retrouve chez Kant, que je m'excuse de vous lire en allemand, qui définit la cohésion ainsi, « the resistance to separation of matters in contact is cohesion ». D'accord ? Donc, définir la cohésion en termes de résistance, c'est quelque chose d'assez intuitif et commun. Alors, je vais passer ça, et toute la question, c'est d'essayer de clairement comprendre ce que c'est que ce concept de résistance. Et ma proposition, j'oublie ma deuxième colonne. Ma proposition, c'est la proposition suivante. Qu'est-ce que c'est ? Non. Essayons d'abord de comprendre ce que c'est que la résistance d'un seul corps au mouvement. D'accord ? On ne s'intéresse pas au mouvement relatif pour commencer, mais on s'intéresse à la résistance d'un seul corps au mouvement. Et l'idée, c'est la suivante. Un corps A est résistant au mouvement si et seulement si lorsqu'une force est exercée sur ce corps, lorsqu'une force est exercée sur ce corps, qui tente à bouger ce corps, à mouvoir ce corps dans une direction, qu'on appelle la force appliquée, ce corps exerce une force opposée, qu'on appelle la force de résistance, qui contrecarre en partie ou totalement la force initiale. Alors, c'est plus facile de voir ça avec un schéma, et c'est le schéma que vous avez en haut de la page 5, vous avez un corps au départ, et on lui applique une force qui est toute la longueur de cette flèche, ici, pour le faire accélérer vers la droite. Et qu'est-ce que c'est pour ce corps que de résister au mouvement ? Ben, c'est d'exercer une force qu'on appelle une force de réaction, une force de résistance, qui contrecarre en partie la force initiale. Alors qu'est-ce que ça veut dire que contrecarrer en partie la force initiale ? Eh bien, ça veut simplement dire que cette force de réaction ici empêche une partie de la force appliquée de causer l'accélération qu'elle aurait causée si elle avait été seule. Donc si cette force avait été seule, le corps aurait accéléré très vite vers la droite, mais comme on a une force de résistance qui annule en gros la moitié de cette force appliquée, parce que c'est une force opposée, et bien finalement le corps ne va accélérer vers la droite qu'en proportion de la force résultante, qui est ces petits bouts de force restants ici. D'accord ? Donc le point important, c'est que la résistance, c'est cette relation entre deux forces. On a une force qui va dans un sens, une force qui va dans un autre sens, donc c'est un cas de composition des forces, et en fait c'est on n'a pas très parlé de composition dans le sens de composition vectorielle jusqu'ici, mais c'est un sujet important. C'est un cas de composition des forces, l'idée, c'est que la résistance, c'est précisément le cas où une force empêche une autre de causer l'accélération qu'elle aurait causée si elle avait agi seule. Alors, pour être un petit peu plus précis sur le sujet, l'idée, c'est la suivante. Merci Jean-Baptiste. L'idée, c'est la suivante. Il faut concevoir les forces comme des relations entre des corps qui ont deux types de pouvoirs causaux. Chaque force a d'une part un pouvoir cinématique, c'est-à-dire le pouvoir de causer l'accélération du corps sur lequel elle agit, et elle a également un pouvoir préventif, qui est le pouvoir d'empêcher une autre force de causer une accélération du corps. Et l'idée, c'est que chaque force a soit l'un, soit l'autre de ses pouvoirs activés à un certain degré. Donc si une force cause une accélération, dans la mesure où elle cause cette accélération, elle n'empêche pas une autre force de causer une accélération. Et si une force empêche une autre force de causer une accélération, dans la mesure où elle empêche une autre force de causer une accélération, elle ne cause pas elle-même une accélération. Donc c'est deux pouvoirs qui ont une structure, lorsque l'un s'allume, l'autre s'éteint. Et la résistance, c'est précisément cette relation entre deux forces qui s'annulent l'une et l'autre. Alors ça, excusez-moi de passer vite là-dessus, mais je pense que peut-être quand on considère maintenant la relation au mouvement, la notion de résistance au mouvement relatif qui nous intéresse pour définir la cohésion, l'idée c'est simplement si vous avez deux objets, ils vont résister au mouvement relatif, simplement dans le cas suivant, les objets A et B sont résistants au mouvement relatif, l'un par rapport à l'autre, si et seulement si, lorsqu'une force est exercé ce qui tente à les faire bouger l'un par rapport à l'autre, alors l'un de ces objets ou ces deux objets exerce une force opposée qui contrecarre totalement ou partiellement la force initiale. Alors le fait qu'on puisse contrecarrer qu'en partie une force, hein, c'est ce qui est essentiel ici pour comprendre les degrés de résistance, parce qu'on peut, en appliquant une force sur un objet, arriver à le déformer en partie, ce qui permet de comprendre les degrés de cohésion. En appliquant une force sur un objet, on peut le déformer en partie. Tout ce qu'il faut, c'est que l'objet résiste pour que l'objet soit cohérent à un certain degré. D'accord ? L'eau, qu'on voyait sur la photo précédente, elle est cohésive dans le sens où elle résiste en partie, elle résiste à certaines forces de déplacer ses parties les unes par rapport aux autres. Pas à toutes, si on essaye nous de marcher sur l'eau, ça marche nettement moins bien. Alors, je me rends compte qu'il y a beaucoup... Alors, je vais terminer là-dessus. Jusqu'ici, on a compris ce que c'était que la résistance de deux corps, l'un par rapport à l'autre. Qu'est-ce que c'est que pour deux corps que de cohérer l'un par rapport à l'autre ? C'est de résister au mouvement lorsqu'on tente de déplacer l'un par rapport à l'autre. Maintenant, on a jusqu'ici des corps qui sont conçus comme des points, conformément à la mécanique classique newtonienne, qui repose sur cette abstraction. Mais la chose importante, si on veut appliquer cette notion de cohésion au corps étendu, c'est d'introduire l'étendue précisément, et c'est ce que fait la physique des milieux continus, qui introduit l'idée que les corps sont des étendues. En gros, la physique des milieux continus, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle introduit ce que les philosophes appellent gunk, dont parlait Achille Varzi hier. Elle dit on va concevoir les corps comme étendus dans l'espace et comme étant infiniment divisibles, de telle sorte qu'on a beau couper autant qu'on veut ces corps, on n'arrive jamais à un point. Et il y a trois notions absolument centrales qui sont introduites par les, en physique des milieux continus, qui sont trois types de... ce qu'on appelle contraintes en français, qui ont été introduites par un mathématicien français, Cauchy, et qui sont, il y a, si vous prenez un corps long, étendu, vous pouvez soit le mettre sous tension, si vous exercez deux forces de part et d'autre, soit le compresser, si vous exercez deux forces de part et d'autre vers l'intérieur, soit le mettre sous ce qu'on appelle une contrainte de cisaillement, c'est-à-dire vous exercez des forces qui tendent à faire glisser les différentes parties du corps l'une contre l'autre. Et l'idée générale, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on va comprendre, par exemple, une tension, une contrainte de tension? On va mettre, pour mettre ce corps sous tension, donc on exerce deux forces externes que vous avez là. Et pour représenter maintenant ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que c'est pour ce corps d'être sous tension? Ben, on imagine qu'on le coupe et on réalise qu'il y a deux forces de résistance qui sont à l'intérieur du corps et qui résistent au fait que les parties de ce corps s'éloignent l'une de l'autre. Donc qui est annule, ici en totalité, parce que les forces extérieures et les forces internes ont exactement la même magnitude, donc le corps, en l'occurrence, ne se sépare pas ou ne s'allonge pas du tout. Mais dans certains cas, elles ne font que résister en partie. Si les flèches ici avaient été un peu plus courtes, le corps aurait résisté un petit peu à l'élongation ou à la séparation dans le sens de la longueur et aurait fini par, céder. Donc ça, c'est ce que c'est pour un corps que d'être sous une tension, que d'être sous tension. Et alors je m'excuse, je me rends compte que j'ai prévu beaucoup trop long, mais l'idée générale, c'est qu'on peut définir à ce moment-là, pour les corps étendus, la cohésion, puisque la tension est une forme de résistance. On peut définir un corps cohésif de manière générique comme un corps qui peut être mis sous tension dans une direction ou dans un autre, vers l'intérieur, vers l'extérieur, ou contrainte de cisaillement, ce qui revient à dire qu'un corps est cohésif si et seulement si, lorsque des paires de forces opposées sont appliquées à ce corps, alors ce corps entre dans un état de tension. Alors, c'est le nœud de l'idée que je voulais défendre ici. La clé, c'est que si vous avez cette notion de cohésion comprise en termes de résistance à la déformation, en gros, vous pouvez rendre compte à la fois des différents degrés de cohésion et on peut expliquer également le fait que... on peut expliquer ce qu'est le nœud de la cohésion. Ce n'est pas juste qu'il est impossible pour différentes parties de bouger par rapport aux autres, c'est qu'il est impossible en vertu du fait que les parties du corps résistent à leur mouvement relatif. Je m'arrête là en m'excusant d'avoir prévu trop. Merci beaucoup.
Merci Olivier.